Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 14 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Autour de la table ce lundi, Arnaud Clerc et Didier Croc. Messieurs, bonjour.
Bonjour Manu, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Salut Manu, salut à toutes et tous.
Au menu de cette émission, cette question, le manque de profondeur de l'effectif sera-t-il rédhibitoire pour l'ASM? C'est la question qu'on va se poser ce lundi après la défaite des Auvergnats. C'était samedi du côté de Bayonne, revers 21-13 à Clermontois. Nous reviendrons également dans cette émission sur les choix discutables des Clermontois en fin de rencontre, notamment de ne pas tenter les pénalités qui se sont présentées à eux. Et avant de terminer avec les traditionnels top et flop, nous évoquerons la réception de Toulouse. Ce sera ce dimanche au stade Michelin. Mais revenons sans plus attendre au thème principal de cette émission. Le manque de profondeur de l'effectif sera-t-il rédhibitoire pour l'ASM cette saison? Avant de rentrer plus en détail dans ce thème, un petit tour de table rapide, messieurs. Arnaud?
Alors, il ne faut pas tout balayer après une défaite, surtout à l'extérieur et surtout à Bayonne qui est invaincu à Jean Daugé depuis pas mal de temps. Mais ça peut être effectivement très difficile pour l'ASM.
Didier.
Oui, c'est un aspect qui va forcément pénaliser, entre guillemets, clairement, surtout dans les matchs qui sont compliqués et tendus.
Alors, on le rappelle, hein, Clermont qui s'est incliné 21-13 samedi du côté de Jean Daugé. Les Clermontois qui étaient dans le coup encore pour la victoire à 10 minutes de la fin. Ils n'étaient menés que 15-13. Mais on a senti sur la fin de match de l'indiscipline, les choix qui posent question, on y reviendra d'ici quelques minutes. Mais ce qui a le plus frappé, en fait, voilà, c'est l'apport du banc qui n'a quasiment pas eu d'impact.
Hein, comme très souvent cette saison, on l'a assez répété que l'ASM avait perdu beaucoup de points dans les dernières minutes, et notamment ces fameuses deux dernières minutes après la 78e. Bon, là, c'est pas le cas. Ça a été dans les dix dernières minutes que l'ASM a un peu perdu pied. Mais j'avais souligné il y a quelques temps que le banc n'apportait pas assez et que ça manquait un peu de profondeur d'effectif côté Clermontois justement pour bien terminer ces matchs. Et on le voit chaque week-end, hein, les rencontres de top 14, c'est de plus en plus serré. On le dit depuis la nuit des temps, mais c'est encore plus le cas cette année. Il n'y a qu'à regarder le classement et les écarts entre les premières équipes et le classement est hyper resserré. Donc ça donne des matchs qui sont de plus en plus serré, étriqué, tendu jusqu'à la fin. Et effectivement, il vaut mieux avoir un bon banc de touche. Et l'ASM, ça pose souvent problème là-dessus. Et ça a été le cas à Bayonne.
Didier, il y avait des blessures, notamment celles qui se sont ajoutées la semaine dernière. On pense à Falgou, à Bello. Mais il y a également les choix, parce qu'on rappelle que l'ASM, on l'évoquera d'ici quelques minutes, mais est toujours dans le rouge au niveau des gifs. Donc forcément, ça contraint le staff à faire des choix et à mettre des joueurs qui n'aurait peut-être pas mis s'il y avait d'autres possibilités. Comment on peut l'expliquer?
Il y a tension sur quelques postes, hein, indéniablement, ça depuis le début de la saison, les postes de pilier droit notamment, où Clermont joue sur le fil du rasoir et continuera à jouer sur le fil du rasoir avec Slimani et Ojovan. On se rend compte que quand l'un des deux n'est pas là, Clermont marche sur une patte. Actuellement, il y a des raisons conjoncturelles, hein, avec des blessures à certains postes, notamment au poste de trois quarts centre, où il y a eu deux blessés, deux forfaits, deux dernières minutes pour aller à Bayonne. Darry Carrère qui a déclaré forfait dans la nuit parce que bon, il y a eu des soucis de santé dans la nuit qui précédait, et Moala qui était prévu et qui n'a pas pu s'entraîner à cause de douleurs à un pied, qui a également déclaré forfait. Donc ça s'ajoute à ce deux forfaits dernière minute, des blessures de longue date qui sont celles de Julien Rito qui s'est fracturé le plancher orbital, et de celle de Dira et Simoneux qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc là, c'est un poste qui est sous tension, et on l'a vu samedi à Bayonne, effectivement, dans le cœur du jeu, ça a manqué de fluidité. Hein. Nous sommes a fait ce qu'il a pu, mais bon, dans un registre qui n'était pas le sien. Et ça a aussi entraîné aussi une faiblesse sur le banc, puisqu'il n'y avait quasiment plus de trois quarts dignes de son...
qui connaissent le poste.
Qui connaissent le poste. Et d'un niveau qui est requis pour le top 14. Donc là, c'est vraiment un poste sous tension. Le poste de pilier gauche aussi. Tout ça fait que, effectivement, là, il y a eu des moments difficiles. difficiles et sur la qui étaient conjoncturelles, mais qui sont aussi récurrents sur l'ensemble de la saison, hein, c'est sûr.
Alors les blessures, on l'a dit précédemment, Arnaud, se sont ajoutées la semaine dernière. On arrive sur une période, il y a eu cet enchaînement de 15 matchs consécutifs à la sortie de la Coupe du Monde. Hein. Est-ce que les organismes commencent à souffrir? Les blessures peuvent s'enchaîner dans les semaines qui viennent. Et on sait qu'on va arriver à une période charnière de la saison. Là, et quand on voit, effectivement, tu l'évoquais, le classement serré, est-ce que ça peut devenir critique pour Clermont, justement?
Ah bah oui, alors il y a ça aussi. On l'a assez souligné, il n'y avait pas beaucoup de blessures à Clermont par rapport cette saison, par rapport aux exercices précédents. C'était en nette diminution, et notamment tout ce qui concerne les blessures musculaires. Et là, on voit que ça commence à arriver. Il y a Bello qui a été touché à une cuisse, Falgou qui a été touché à un biceps. C'est des choses qu'on n'a pas trop vues cette saison. Et effectivement, les organismes commencent peut-être à fatiguer, d'autant que à cause de la problématique des gifs à l'ASM, c'est souvent les mêmes joueurs qui évoluent, parce que ils s'appuient sur un 23 type qui est très performant, et la profondeur d'effectif fait que quand on commence à interchanger des joueurs, ça se voit tout de suite sur les performances de l'équipe. Et donc ouais, il y a des organismes qui commencent à fatiguer. Effectivement, ça peut, devenir problématique si la tendance se confirme.
Tu évoquais les gifs, Arnaud. Juste un chiffre, hein, après cette 15e journée, l'ASM est à une moyenne de 15,93 gifs. On rappelle que les clubs doivent présenter au minimum 16 gifs par feuille de match. L'ASM donc n'est pas dans les clous aujourd'hui. Il y a deux clubs qui ne sont pas dans les clous, l'ASM et Montpellier, qui lui présentent une moyenne de 15,53 gifs.
Il y en a aussi qui en dessous de 16, mais comme ils sont promus,
eux ils ont un autre barème, effectivement. Donc ça veut dire que si la saison s'arrêtait là pour Clermont, avec cette moyenne de 15,93, Clermont serait pénalisé de 6 points au classement sur la saison à venir. Mais c'est une problématique qui va toucher le stade sur encore les prochaines semaines, parce que jusqu'à la fin de la saison.
Et c'est très compliqué, ça doit être très compliqué à gérer pour le staff, parce que là ils sont sur la corde raide à ce niveau-là, pour gérer cette problématique des gifs, en mettre le maximum sur la feuille de match. Donc ce qui veut dire que c'est effectivement un peu toujours les mêmes qui jouent, donc des gifs, et qui sont forcément sujets à blessure, parce que plus ils vont jouer, plus ne serait-ce que statistiquement ils vont être appelés à être blessés. Donc là c'est effectivement très très compliqué, parce que il suffirait que d'ici la fin de la saison il y ait deux ou trois gifs qui soient blessés, là ça deviendra encore plus compliqué, quoi.
Est-ce qu'il faudra, Arnaud, que l'ASM fasse l'impasse sur un match, entre guillemets, en disant allez, on fait le plein de gifs sur ce match-là, en mettant possible, il y a l'histoire du classement aussi derrière.
Il y a un joueur de gif de retard actuellement. Il y a un joueur gif de retard. Donc pour passer au-dessus des 16, il faudra fatalement que l'ASM fasse une impasse un jour. Mais là, s'ils sont dans la lutte pour les 6, ça va être compliqué aussi à faire une impasse, parce que l'effectif est construit tel quel, et il n'y a pas une profondeur au niveau des joueurs GIF qui est assez importante. Donc il faudra faire une impasse un jour, mais la problématique est ça va se voir sur le rendement de l'équipe. Donc quand on lutte pour une place dans les 6, c'est compliqué.
C'est d'autant plus problématique que les meilleurs joueurs sont pas GIF, quoi. Quand on regarde le 15 type, grosso modo, que peut aligner en état de forme maximale, que peut aligner Urios, et la plupart des meilleurs joueurs ne sont pas gifs. Donc quand il s'agira de ne pas les aligner pour se mettre dans les clous par rapport à la règle, ça va être forcément compliqué. Il ne pourra pas aligner à ce moment-là sa meilleure équipe. On l'a vu à Bayonne, au poste de talonneur, le fait de ne pas aligner Fenga, c'est simplement... une contrainte GIF, en ayant Bérégaray
et le jeune Couli,
ça lui mettait deux GIF, mais bon, ça privait du titulaire qui était en poste depuis le début de la saison et du meilleur joueur en poste aussi.
Alors, je voulais, on va pas jeter la pierre à ce joueur-là, mais je voulais qu'on s'intéresse à Pessiliato, donc qui était remplaçant samedi à Bayonne, qui entra en jeu, qui n'a pas eu l'impact escompté. C'est pas la première fois que le troisième ligne fidjien a du mal lorsqu'il est remplaçant à être performant sur ses entrées en jeu. On pense notamment au match à Castres où il avait coupé d'un carton jaune. Il n'était même pas revenu sur la pelouse derrière.
Au match à Bayonne l'an dernier, le 13 mai dernier, où il avait fait une entrée catastrophique avec un carton jaune dès 3 minutes après son entrée, où il avait failli décapiter un trois quarts de Bayonne. Et donc il avait pris un jaune d'entrée, ce qui avait engendré la révolte bayonnaise et avec à la fin une défaite pour l'ASM alors qu'ils avaient fait jusqu'à présent là aussi tout ce qu'il fallait pour s'imposer. Oui, effectivement, Pessiliato, c'est l'archétype du joueur qui est en position de... qui, quand il est sur le banc, n'apporte pas ce qu'il est censé, ce qu'il peut apporter lorsqu'il est titulaire. Il n'a pas... Alors, pour quelle raison, ça, c'est sûrement un travail psychologique à faire, mais historiquement, et les faits montrent que quand il est sur le banc, c'est pas le même joueur, il n'a pas le même impact. Donc voilà.
Arnaud. Justement, après le match de Castres, où tu soulignais qu'il avait eu un carton jaune 3 minutes après son entrée en jeu.
À Bayonne. Et à Castres aussi.
À Castres, c'était à Castres. Et il avait perdu le premier ballon au contact en rentrant. Enfin bref, 3 minutes catastrophiques. Il n'était même pas revenu sur le terrain après les 10 minutes... au frigo. Christophe Furios l'avait relancé la semaine d'après en tant que titulaire contre Lyon et il avait fait un match super. Donc effectivement, quand il est sur le banc, je sais pas, ça doit être psychologique, il doit avoir du mal à rentrer dans le match.
L'envie de trop bien faire
Il
y a sûrement un travail d'ordre mental à faire là-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un joueur comme ça, même si ces derniers temps, apparemment à l'entraînement, il ne faisait pas non plus tout ce qu'il fallait, mais il n'y a pas de raison qu'il perde autant de moyens lorsqu'il n'est pas titulaire, quoi.
Parfait, ben merci messieurs. On va terminer ce thème principal autour du banc clermontois, donc qui n'a pas eu l'impact escompté samedi du côté de Jean Daugé. Alors, on va enchaîner avec un deuxième thème qui est toujours lié à cette fin de match samedi du côté de Bayonne. Ce sont ces choix qui font parler. C'est notamment ces deux pénalités dont a bénéficié l'ASM en fin de match. C'était aux 65e et 67e minutes. À ce moment-là, l'ASM était mené de 2 points, 15 à 13. Clermont qui a eu donc la possibilité à deux reprises de repasser devant. 65e minute, faute en mêlée des Bayonnais, pénalité sur les 40 mètres, décalée à 10 mètres du bord de touche côté gauche. Pénalité pour les Clermontois qui décident d'aller en touche. Le ballon est capté en touche, mais derrière, les Clermontois se font pénaliser. Et 2 minutes plus tard, 67e minute, ballon gardé au sol de la part du 3e ligne centre de Bayonne. Pénalité située celle-ci à 45 mètres face aux perches. On rappelle, le score était le même. 15 à 13 pour les Basques. Benjamin Urdapileta qui discute avec ses partenaires et qui décide d'aller en touche. Et là, sur le lancer, ballon perdu par les Clermontois et Bayonne qui peut se dégager. La suite, on la connaît. Messieurs, la question est simple. Est-ce que l'ASM aurait dû tenter les pénalités?
Alors oui, l'ASM aurait dû tenter la pénalité. Il y avait 15-13 à ce moment-là. Donc ça aurait permis de repasser devant. Mais moi, je n'étais pas à Bayonne, mais je me doutais que Urdapileta allait pas prendre la pénalité. On en a discuté un peu ce matin. En première mi-temps, il a une pénalité également après la ligne des 40 mètres. Et je me suis dit, il va la louper. Je trouve que Urdapileta n'a pas un coup de pied assez long. Après 40 mètres, c'est difficile pour lui. J'ai observé plusieurs reprises. C'est des coups de pied qui sont plus en cloche, qui ne sont pas très tendus. Effectivement, après la ligne des 40 mètres, il a un peu plus de difficultés. On l'a vu sur cette pénalité en première mi-temps où il force le coup de pied, où elle passe quand même largement à droite des poteaux, il me semble. Il a pas un coup de pied long. Il est très précis. C'est un buteur très précis, mais malheureusement, quand c'est un peu à longue distance, il a un peu plus de mal. Donc, il la sentait pas. Il a pas voulu la taper. C'est après. le sens du jeu aurait voulu qu'ils prennent les points, mais s'ils ne la sont pas, et malheureusement, il n'y avait pas d'autres buteurs sur le terrain pour
pas là, il n'y avait pas, d'alternative.
C'est plus sur la deuxième, je trouve, la question.
Mais il ne la sentait pas, donc à partir du moment où il ne la sent pas, quand il ne sent pas les trucs, un buteur, quand un buteur ne la sent pas, c'est rarement bon signe. Hein, donc, c'est son choix, et après, c'est vrai que c'est, de l'extérieur, ça peut être considéré comme préjudiciable et comme un mauvais choix, forcément. Mais bon, c'est lui qui a la main. Là, donc, à partir de là, s'il ne la sent pas et s'il ne veut pas la tailler, il n'y a rien à faire. Hein, donc,
alors, Christophe... Christophe Luron, qui était à Bayonne, nous racontait qu'à l'échauffement, il avait eu du mal aussi dans ses coups de pied, je crois.
C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est ce qu'il disait. Oui. Alors que les conditions étaient plutôt bonnes. Hein, ça peut arriver qu'un buteur.
C'est un peu à l'image de son match, hein, d'ailleurs, qui n'a pas été. Qu'on peut qualifier comme un match de reprise en tant que titulaire. Ouais. Hein. Il n'a pas été. Il était influent sur le premier essai, sur l'essai de Clermontois, avec ce petit par-dessus. Donner du droit, d'ailleurs, je crois, tant que je me souviens, qui n'est pas son bon pied. Mais dans le jeu, il a été quand même un peu moyen. Il a été râlé après l'arbitre de touche.
Il se fait pénaliser, d'ailleurs.
Du coup, ça prive clairement d'une pénale touche. Ça n'a pas été un match. On l'a connu meilleur, quoi. Bien meilleur.
Il y aurait eu Bello. Bello n'aurait pas été blessé. Je pense que l'ASM aurait tenté ces deux pénalités.
Oui, parce que vu le score à ce moment-là, et puis encore une fois...
Et on en revient à la profondeur de l'effectif au premier débat, du coup.
Oui, aussi.
Parce qu'il n'y avait pas de buteur remplaçant, à part Urda Pileta.
Après, c'était Théo Giral qui était sur le banc, qui devait courir le poste d'ouvreur, mais il n'est pas entré, effectivement. Et c'était peut-être pas un cadeau non plus pour lui de le faire rentrer et de lui donner le but dans une fin de match indécise. Comme ça. Il y a une question qu'on voit de manière de plus en plus souvent. On parlait de ces équipes qui tentent moins les pénalités et qui décident d'aller en touche. Je voulais avoir votre avis alors en aparté là-dessus, pas forcément sur. Mais on voit que les équipes de plus en plus tentent les pénales touches lorsque les pénalités pourtant tentables se présentent. C'est une volonté de marquer l'adversaire, de marquer son territoire.
Là pour l'ASM, puisqu'on parlait de l'ASM, c'est plus une question que Urda Pileta sentait pas les coups de pied.
Oui, non, mais de manière générale, sur le top 14, ouais. Depuis le début de cette saison.
Une question de bonus aussi, il y a une question de le championnat est serré, donc il faut essayer de marquer le plus de points possible. Et un point de bonus défensif, ça peut faire la différence à la fin. Donc repasser devant, s'il y a 15-13, je reprends l'exemple de l'ASM, mais admettons. Un match lambda, il y a 15-13, tu vas en pénal touche, tu marques sur ballon porté, à quelques minutes de la fin, tu t'assures presque, tu peux pas t'assurer la victoire, mais tu t'assures presque un bonus défensif. À l'extérieur, ça peut compter à la fin de saison.
Ouais, tu marques l'adversaire psychologiquement.
C'est une action qui est difficile à défendre pour l'adversaire, hein, sur les ballons portés comme ça, qui sont proches de la ligne, à 5 mètres. Ouais, c'est compliqué. Si c'est bien fait de la part de l'équipe qui attaque, c'est très difficile à défendre. Hein. Donc, effectivement, ça peut être un choix. C'est un choix qui peut être valable, hein, effectivement.
Après cette 15e journée, l'ASM sort du top 6. Donc, les Clermontois qui se retrouvent 8e avec 35 points au classement. Les Clermontois qui comptent 2 points de retard sur le top 6. Prochain rendez-vous pour Clermont, ce sera dimanche, 21h05 au Michelin face à Toulouse. Et on va entamer le troisième thème de cette émission. Donc, Toulouse qui sera privée de ses internationaux, qui sera privée d'Antoine Dupont, qui est retenu avec l'équipe de France A7. Messieurs, est-ce que c'est le bon moment pour jouer les Toulousains?
Je pense que c'est pas le plus mauvais, en tout cas.
C'est pas le plus mauvais. Mais c'est incroyable, Toulouse. Enfin, ils ont 3 équipes, quoi. Il y a quelques semaines, j'aurais eu tendance à vous dire ouais, c'est le bon moment. Mais là, comme dirait Didier, il a la bonne formule. C'est pas le plus mauvais. Là, on l'a vu le week-end dernier. Ils ont mis 60 points au Yona avec une équipe. Avec une équipe largement remaniée. Donc, c'est un club qui est étonnant. C'est un club qui a une philosophie, qui a la même philosophie depuis la nuit des temps. Ça joue à fond. Il y a des joueurs qui partent, il y en a d'autres qui arrivent. C'est l'équipe qui a le plus de gifs sur le terrain. Ils sont presque à 21. Avec la moitié de l'équipe qui est en équipe de France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même extraordinaire.
Donc, ils se retrouvent premiers.
Et ils se retrouvent premiers à passer des 60 points au Iona. Alors, est-ce que c'est le bon moment ? Oui. Je ne sais pas si je peux vous dire oui, mais ce n'est pas, c'est pas le plus mauvais.
C'est pas le plus mauvais.
Il y aura quand même la moitié, il y aura quand même des joueurs importants dans le pack qui seront pas là, donc
ils seront sûrement pas c'est aussi. Enfin, tout ce qui peut être considéré comme étant le pas le plus mauvais moment, c'est que Toulouse va pas venir faire la guerre à Clermont. Je pense pas, puisque ils sont, enfin, je pense pas, ils vont pas venir les mains du guidon. Mais grâce à cette victoire bonifiée, et ils se retrouvent en tête, donc ils sont pas dans l'urgence d'avoir à prendre des points, quoi. Donc quel va être le discours de Mola durant la semaine, ça va aussi influer sur le comportement de ces joueurs dimanche soir au Michelin, hein. Quel message il va faire passer, à voir, quoi.
En tout cas, pour Clermont, quand on voit le classement et quand on voit les résultats de ce week-end, bien, c'est réaction forcément attendue après cette défaite à Bayonne. Mais Clermont qui se retrouve dans cette situation, même s'il y a eu ces deux victoires à l'extérieur qui permettent de rattraper les deux revers à domicile, mais Clermont qui ne peut plus se permettre un faux pas à la maison aujourd'hui.
Ah non. L'occurrence, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir aussi récupéré un point de bonus défensif de Bayonne, hein, qui était pour le moins à leur portée au regard de la physionomie de la rencontre. Et c'est un point qui pèse, quoi, enfin qui pourrait manquer lors du décompte final. Et c'est vrai que maintenant, bon, dans la situation, clairement, elle ne peut plus se permettre de perdre à domicile, hein, quand on sait combien c'est difficile d'aller gagner à l'extérieur.
Parfait, merci messieurs. On s'approche de la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, on va terminer avec les traditionnels top et flop. Vous connaissez le principe, c'est ce que vous avez retenu de l'actualité ovale de ces derniers jours. On va commencer avec toi, Arnaud, un top ou un flop ?
Bah, ça sera un top et ça sera pour cher Tibérien, qui a vraiment fait un super match samedi soir contre l'ASM. On l'a vu sur le premier essai des Bayonnais, il est décisif sur l'action, c'est lui qui cadre... C'est lui qui cadre, je ne sais plus qui était le dernier défenseur, je n'en ai plus de souvenir. C'était Raka, ouais. Il le cadre, il le dépose complètement, c'est ce qui fait la différence au bout et c'est ce qui fait le décalage. Et c'est lui aussi qui revient défensivement sur Raka en impactant physiquement le Fidjien, parce qu'il le pousse vraiment en touche, quoi. Enfin, il fait un retour phénoménal. Et il le marque physiquement, quoi. Moi, c'est un joueur que j'aimais bien quand il était à l'ASM. Je trouvais que c'était un joueur déjà polyvalent. À l'aile, il était bon. Les fois où il a joué centre, c'était pas si pire. À l'arrière, il a un bon coup de pied, il a une relance et il a de la technique. Alors, présent sous les ballons hauts. Je trouve que c'est un mec qui manque à l'ASM aujourd'hui, ce profil. On parlait de profondeur d'effectif, et en plus, il est gif. Bon, après, il y a eu des soucis de compatibilité avec Christophe Urios, apparemment des soucis de comportement. Ça, on n'est pas dans le vestiaire, c'est difficile à voir les tenants et les aboutissants, mais... potentiellement parlant, c'est un très bon joueur et je trouve que ouais, il manque un peu à l'effectif clermontois cette saison.
Il a voulu montrer en tout cas tout son talent forcément samedi face à son ancien club. Didier.
Eh bien, mon top, ça sera pour un Toulousain, le demi de mêlée de la Paul Graouk, que le public de Clermont aura l'occasion de voir dimanche, puisque Dupont donc ne sera pas là. Et Paul Graouk a marqué 4 essais là contre Oyonnax. Alors c'est vrai que c'était contre Oyonnax, c'est dernier du championnat. Bon, c'est un peu plus facile. Mais enfin, 4 essais, c'est quand même rare, très rare à souligner. Enfin, ça arrive très rarement dans le top 14. Je crois qu'il y a une fois cette année, notre ami Penaud qui a fait
un des premiers,
inscrit un quadruplé. Et c'est quelque chose d'excessivement rare. Donc, pour un joueur de 22 ans qui n'en est qu'à sa deuxième saison en top 14, c'est encore un joueur dont il faudra se méfier, hein, un de ces joueurs de sortie de nulle part et que Toulouse a réussi à bonifier et à amener au très haut niveau. Quoi. Encore un résultat de la formation, de la post-formation, de l'excellence de la post-formation toulousaine.
Parfait. Eh ben merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de m'avoir accompagné. Merci à Mathieu
plaisir.
Qui nous accompagnait aujourd'hui pour ce podcast. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, belle semaine à toutes et à tous. Salut.
Au revoir à tous.
Bonne semaine.
Toutes.